Édition spéciale ce soir consacrée au décès d'Hissène Habré. Avec vous, Mehdi Medeb, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous. L'ancien rebelle, l'ex-président, le chef de guerre, le bourreau des Tchadiens, fuyard taiseux et finalement condamné pour ses crimes. Il fut tout cela à la fois. Hissène Habré, l'ancien chef, l'ancien dirigeant du Tchad, mort du Covid, en exil à Dakar. L'ex-chef d'État y purgeait une peine à perpétuité pour les sévices de son régime entre 82 et 90. On sera à Dakar, à N'Djamena, bien évidemment. Beaucoup de réactions, beaucoup se souviennent aussi de ces années de plomb d'enfer dans les geôles de la DDS, on va y revenir, des invités pour revivre ces années noires, comprendre l'homme, ce qu'il devint, ce qu'il fut aussi. Avec moi, Oumar Kaman Bedaou, intellectuel tchadien, merci d'être avec nous. Avec moi également, le plus célèbre, en quelque sorte, des chasseurs de dictateurs, Reid Brody, ancien de Human Rights Watch. Vous avez été en pointe dans ce procès historique, on va y revenir. Bienvenue à tous dans cette édition spéciale consacrée à la vie et à la mort d'Hissène Habré. L'ancien président du Tchad est donc mort ce mardi à 79 ans. Le Covid a finalement eu raison, il l'a emporté l'ex-chef rebelle devenu paria, jugé puis détenu dans une prison sénégalaise depuis 8 ans. C'est à Dakar qu'il fut condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les 8 ans de terreur. On va bien évidemment en reparler en longueur. C'est un régime qui a inspiré la peur au Tchad. Bonsoir Madias Ranako, vous êtes notre correspondant. Alors 30 ans après l'exil, la fuite d'Hissène Habré, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui à N'Djamena d'Hissène Habré?
Bonsoir Mehdi, bonsoir à tous. À N'Djamena, dans les rues aujourd'hui, les commentaires sont partagés. Il y en a qui voient en Hissène Habré le nationaliste, celui qui a remis le Tchad debout après la longue guerre civile qui a déchiré le pays à partir de 79 jusqu'à 82. À sa prise de pouvoir. Mais les plus jeunes, ceux qui n'ont pas connu ces années et qui ne se souviennent que de ce qui se dit de Hissène Habré, gardent plutôt en mémoire les 40 000 morts, les années de plomb et de dictature où on n'avait pas le droit de dire ce qu'on pensait au risque de se retrouver au fond d'une géole.
Alors, Madiasra, donc, faut le rappeler, Hissène Habré a été chassé du pouvoir par le président défunt, Idriss Déby. C'était en 90. Quelle a été la réaction du gouvernement et donc, et d'abord de son fils, Mahamat Déby?
Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a présenté ses condoléances en fin de matinée à travers un tweet assez court. Mais un peu plus tard, le porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamallah, est venu faire en sorte, en quelque sorte, de l'explication de texte, présentant ses condoléances à la famille d'Hissène Habré, tout en rappelant qu'il n'y aura pas d'hommage ou d'obsèques officielles, parce que Hissène Habré était condamné, mais toutefois, il a précisé que si sa famille souhaite, par exemple, rapatrier son corps pour l'enterrer au Tchad, elle pourra le faire et le gouvernement n'y verra aucune objection.
Merci Madias Ranako. Vous restez avec nous, bien évidemment, tout au long de cette édition spéciale. Je voudrais qu'on parte aussi au Sénégal, parce que c'est là-bas que Hissène Habré a vécu sa deuxième vie, en quelque sorte, puisqu'il a vécu 30 ans en exil. Là-bas, il était à Dakar. Il avait deux résidences, aux Almadi, mais aussi à Wakam. Il y était installé, Théa Olivier. Est-ce qu'il était populaire, en fait, Hissène Habré, au Sénégal?
Eh bien oui, l'image qui reste de lui dans le quartier est très positive. Un chef d'État africain fort, un homme généreux, discret, ce sont les mots utilisés par les Sénégalais rencontrés à Dakar pour décrire Hissène Habré. Donc ici, malgré la condamnation à perpétuité pour crime contre l'humanité, l'homme était respecté. Beaucoup critiquent d'ailleurs cette décision de justice, allant même jusqu'à parler de victime fantôme. Selon Saïdi Gassama, directeur d'Amnesty International au Sénégal, cela s'explique car Hissène Habré a eu le temps de s'intégrer en 30 ans dans la société sénégalaise, d'étendre son influence et d'avoir des soutiens. Cela lui a permis de construire une bonne image de paix, de président renversé, exilé. sans compter celle du héros africain qui a combattu le général Kadhafi et qui a su sauvegarder l'intégralité de son territoire. Mais il ne faut pas oublier le bilan humain de son règne qui a fait des milliers de victimes, rappelle Saïdi Gassama d'Amnesty International. Et puis il faut rappeler que même si le président Macky Sall, qui a l'habitude de présenter ses condoléances sur les réseaux sociaux, ne s'est pas encore exprimé directement, son ministre de la Justice, Malik Sall, a assuré que le chef de l'État a fait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'Hissène Habré soit traité dans la dignité et qu'on tienne en compte de son rang d'ancien chef d'État.
Merci Théa Olivier. Alors, vous vous êtes rendu également dans l'un de ces quartiers où il avait posé ses valises pendant de nombreuses années, à Wakam, parce qu'il faut le rappeler, quand il fuit de N'Djamena, il part quand même avec les caisses du trésor public tchadien. Donc il a eu le temps de tisser sa toile. Et les habitants de ce quartier de Dakar en gardent un souvenir très, très présent.
Dans une petite rue du quartier de Wakam à Dakar, la maison d'Hissène Habré est fermée par un portail noir. De temps en temps, des proches ou de la famille entrent discrètement habillés de boubou blanc devant Cheikh Gaye, chargé de la sécurité. Il travaille ici depuis 12 ans et connaît bien l'ancien président tchadien.
La famille Habré, là, ce sont des Sénégalais, ce sont mes frères parce qu'ils parlent Wolof. Depuis que moi j'entendais Habré est mort, c'est comme mon père qui est mort.
Yaya Wan est un ami des petits-fils d'Hissène Habré.
On est comme des frères, on ne sent même pas la différence de nationalité. Ils sont ouverts, des gens extraordinaires. Et tout ce qu'il avait aussi, il le partageait avec les autres. Il méritait de terminer ses jours au milieu de sa famille. Et parce qu'il a été un bon voisin, c'était un homme fort et c'était un grand homme.
Babacar Wad, voisin d'Hissène Habré, se souvient encore de leur première rencontre au bord de la plage il y a plus de 30 ans.
Il faisait du social, il est généreux et vraiment pieux. Il était condamné par la justice, mais aussi, il est malade, on devait le laisser partir, il ne va pas fuir.
Théa Olivier, Dakar, RFI.
Reid Brody, on l'entendait, un grand homme, est-ce que vous êtes d'accord?
Non, je ne le suis pas, je pense que l'histoire retiendra qu'Hissène Habré était un des dictateurs les plus impitoyables, un homme qui a massacré des milliers de personnes, qui a incendié des villages entiers, qui a condamné des femmes à servir d'esclaves sexuels à ses soldats, qui a fait construire des cachots secrets pour infliger à ses ennemis ou à ses prétendus ennemis des tortures moyenâgeuses. Malheureusement, c'est pour cela qu'il a été condamné, que les victimes se sont battues pendant 20 ans pour qu'il soit jugé et que le tribunal a condamné quand même pour crime contre l'humanité.
Reid Brody, on doit le rappeler, vous connaissez bien en fait le régime Habré et le personnage, puisque à l'époque, donc en 2000, vous étiez à Human Rights Watch et en quelque sorte vous aviez été contacté par les associations pour instruire la plainte et ce qui allait devenir des années plus tard le procès. Donc vous avez appris en fait à vraiment décrire les arcanes du pouvoir Habré.
J'ai interviewé, enfin j'ai côtoyé, j'ai vécu avec des victimes, des gens comme Souleymane Gengeng, qui je pense qu'il sera avec nous, qui au fond de cellules, pendant que les gens meuraient, qui a juré devant Dieu que s'il sortait vivant, il allait se battre pour la justice. On a interviewé des centaines de témoins, de victimes, mais on a aussi on est aussi tombé sur les documents de la police politique, la DDS, qui retrace dans le détail comment Hissène Habré a mis en place un système à arrêter, à tuer. Rien que dans ces documents, on trouve le nom de 1208 personnes qui sont décédées en détention, des milliers de personnes victimes d'arrestations arbitraires et de tortures, des documents envoyés directement à Hissène Habré. Il y avait, d'ailleurs au procès, il y avait un ancien vice-directeur de la DDS, Benjim Bandou.
La direction de la documentation et de la sécurité.
Exactement, qui a témoigné que ces documents étaient délivrés par le directeur de la DDS à Hissène Habré, qui a fait des annotations exécutées. Hissène Habré, il y avait un ancien chef de cabinet d'Hissène Habré, Gally Ngott, qui nous a raconté comment, après son arrestation, il a été torturé, or que Issenabré était de l'autre bout d'un talkie-walkie en appelant ses tortionnaires à y aller.
Ou Marc...
c'était pas quelqu'un distant, c'était quelqu'un qui avait les mains entachées du sang. C'est difficile à dire le jour de son décès.
Mais oui, peut-être qu'on peut revenir aussi sur le pan de sa personnalité. Ou Marc Amand Bedaou, je rappelle que vous êtes intellectuel, tchadien, démographe. Vous avez connu de l'intérieur ce régime Abré, puisque au moment où il accède définitivement au pouvoir, si on peut dire, donc en 82, vous aviez à peu près 25 ans. Vous qui l'avez vécu de l'intérieur, c'était quoi exactement les ressorts d'Abré ? Avant l'antenne, vous me disiez que c'était un climat de peur, on n'osait même plus parler. Ou Marc Amand Bedaou, est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous.
Est-ce que vous m'avez entendu ? Comment vous pourriez décrire les années que vous aviez vécues en tant que jeune étudiant, jeune démographe à l'époque en 82 ?
Mais il faut d'abord dire que Hissène Habré est arrivé en 78 en tant que Premier ministre du général Félix Maloum. Il était présenté comme... parce que Faya Alarjo venait de tomber en février 1978, donc Hissène Habré pouvait servir de paravent. Il avait quand même un certain nombre de soutiens. Mais 6 mois après, la guerre a éclaté. Et la guerre a été très longue. Il a été battu. Il est revenu en 82. Et en 82, l'administration, il a réussi à remettre l'administration par sa propre méthode, par la dictature, et surtout que le pouvoir était un pouvoir trop fort.
Trop fort, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'était un régime dur ? Qu'est-ce que vous en gardez, vous, personnellement, de ces années-là ?
C'est l'absence de dialogue entre les Tchadiens d'abord, parce que tout le monde, il y avait un climat de défiance, il y avait un climat de méfiance, personne ne pouvait se confier à personne, parce que même à votre enfant, vous ne pouvez pas vous confier. Et le problème politique n'est pas discuté dans les familles. Il y avait des prisons, il y avait des prisons parallèles. Il y avait des justices parallèles, il y avait des mouroirs parallèles. Et lorsqu'on vous prend, on ne sait pas où est-ce qu'on vous amène. Est-ce que vous êtes mort ? Est-ce que vous êtes vivant ? Personne n'en sait rien. Il a fallu que Hissène Habré parte pour qu'un certain nombre de secrets sortent. Et Hissène Habré a fait régner la terreur dans le pays.
Et je voudrais qu'on écoute, merci beaucoup Oumar Kaman Bedaou, je voudrais qu'on écoute aussi une autre réaction à ce propos, Jean-Bernard Padaré, bien sûr, hein, du MPS, qui a réagi tout à l'heure à la mort d'Hissène Habré.
C'est une réaction de tristesse, hein. C'est vrai que c'est le MPS qui est venu le chasser du pouvoir, c'est le gouvernement issu du MPS qui avait voulu... qu'il réponde de ses actes devant la justice internationale, c'est ce qui a été fait. C'est une page qui se tourne parce qu'il était l'un des acteurs portants des événements de 79. Et malheureusement, très vite, il avait viré à une sorte de politique un peu discriminatoire et surtout à des exactions. C'est pour cette raison, entre autres, qu'ils ont eu à prendre le maquis pour venir le renverser, pour prendre le pouvoir. Et il n'a pas fait que de mauvaises choses. Il a été l'un des précurseurs à affirmer la fierté d'être africain, d'être tchadien. Nous pensons surtout quand le Tchad était envahi par les Libyens, il a tout fait avec ses compagnons d'armes de l'époque. Ils ont chassé les Libyens jusqu'à aller à Maten El Sara. C'était quand même fantastique. On était fiers d'être tchadiens. Nous autres, on était encore très jeunes avant qu'on parte pour faire nos études en Europe avec Hassan Diamous, avec Idriss Déby. Et c'était Guara Lassou. C'était une équipe de nationalistes. C'était quelque chose de très important pour les Tchadiens et surtout pour les Africains que nous sommes.
Voilà, il a incarné aussi une fierté. Saleh Kebzabo également a réagi, le chef de l'opposition tchadienne sous Idriss Déby, qui disait qu'avec la mort d'Abré et en avril, toujours cette année avec la mort d'Idriss Déby, eh bien c'est une page qui se tourne.
Je suis vraiment choqué par le décès de l'ancien président Abré. parce que sa femme a alerté quand même les autorités sénégalaises depuis quelques semaines sur des risques de Covid qu'il encourait. La deuxième réaction, c'est que, curieusement, cette mort intervient dans une situation politique au Tchad où il y a une remise en ordre politique qui se passe dans notre pays, tout est remis à plat. Et je suis sûr que la mort du président Abré va aussi contribuer à cette remise à plat où l'échiquier politique va encore connaître un petit changement. Il ne faut pas perdre de vue que depuis 31 ans qu'il a été renversé par Idriss Déby, l'ancien président Abré a quand même beaucoup de partisans à l'intérieur du pays qui s'expriment ou qui ne s'expriment pas et qui aujourd'hui donc auront par défense politique qu'ils observaient jusqu'ici, la latitude d'agir, la latitude de militer plus vastement pour la cause nationale qui nous appelle tous en ce moment, qui est le Rassemblement des Tchadiens, pour avoir un dialogue inclusif. Je pense que c'est une page qui est tournée. Le fait que cette page-là se tourne aussi est un élément de faveur pour les Tchadiens.
Voilà, Salé Kebzabo.
Édition spéciale sur RFI.
19h45 à N'Djamena, donc je vous le rappelle, Hissène Abré est décédé aujourd'hui à Dakar lors de son exil sénégalais, donc il avait 78 ans. Reid Brody, je voudrais vous faire réagir à ces propos contenus Salé Kebzabo et un peu avant Jean-Bernard Padaré. Est-ce que vous diriez qu'une page s'est tournée ?
Il y a une page qui s'est tournée dans le sens que les deux hommes qui ont dirigé le Tchad depuis maintenant 40 ans, mais est-ce qu'on n'est pas dans la continuité? Je ne suis pas expert dans la politique actuelle tchadienne, Jean-Bernard Padaré pourra peut-être en parler, mais on voit une succession quand même dynastique avec le fils de Idriss Déby. On voit toujours, d'ailleurs, Hissène Abré, il était porté au pouvoir par les États-Unis, comme un rempart contre Muammar Kadhafi. Idriss Déby a été soutenu par les États-Unis, par l'Occident, comme un guerrier contre le terrorisme. Le fils maintenant d'Idriss Déby, on risque de voir se prolonger la même chose. Donc, peut-être que les hommes passent, mais je pense que la géopolitique, l'exchequier géopolitique reste un peu le même.
Oumar Kamambédaou, vous avez un peu le même sentiment. Est-ce que c'est une page qui se tourne ou vous avez toujours l'impression que finalement l'ombre d'Abré plane toujours sur le Tchad?
Absolument. L'ombre de Hissène Abré continue de planer étant donné que le régime de Idriss Déby n'est que la continuité de celle de Hissène Abré, sauf avec quand même un droit à la parole. Mais en ce qui concerne la dictature, elle est restée. Et ce sont les ailes du Frelimo qui continuent. Nous pensons que la mort de Abré ne change aucunement la page du Tchad. La page du Tchad ne peut être changée que dans le cadre et respect de l'ordre constitutionnel. Mais tant que le pouvoir continue à se faire prendre par les armes, absolument, on va continuer dans la même dictature. Peut-être que les hommes changent, mais la méthode qui a été employée reste, la méthode de Hissène Abré reste, le népotisme, le sectarisme, le clanisme.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Oumar Kamambédaou, vous parlez de la méthode, de la prise du pouvoir par les armes, ce qui est assez très fort en fait au Tchad, donc, puisque on l'a vu, c'était le cas avec Idriss Déby, c'était le cas donc avec Hissène Abré. Et je voudrais qu'on écoute aussi Guara Lassou. Il a connu Abré en 78. À ce moment-là, Abré fut nommé éphémère premier ministre, et puis ensuite quand il repart dans la rébellion, il nomme Guara Lassou comme chef d'état-major. Il deviendra par la suite son ministre des Affaires étrangères et il restera un soutien indéfectible à Hissène Abré.
PG a pris la nouvelle de la mort de Hissène Abré avec grande douleur parce que Hissène Abré était un patriote. Je disais à quelqu'un qu'il y a deux Tchadiens qui ont eu le même amour pour le Tchad. C'est Thomas Mbaye et Hissène Abré. Thomas Mbaye ne permettait pas qu'on piétine le Tchad. Et Hissène aussi. Et c'est ce qu'il a perdu d'ailleurs.
Quel est l'héritage politique que le Tchad ou l'histoire retiendra de Hissène Abré?
La libération d'Aouzou et la sortie du pétrole du Tchad. Parce que c'est Hissène Habré qui a fait signer le contrat avec la compagnie américaine et qui a mis en boule Mitterrand pour lui dire « Bon, tu as fait la même chose que Thomas Mbaye, tu vas partir du pouvoir. » Les deux choses, libération d'Aouzou, sortie du pétrole du Tchad. Il a beaucoup de gens qui ont gardé des rancunes contre lui. Pour la plupart, pour certains, sont des complexés. Pour d'autres, c'est justifié parce que bon, ils ont perdu des parents dans des prisons. Je compatis avec eux. Donc, c'est une grande perte. Mais il a quand même écrit une belle page de l'histoire du Tchad. Bon, bien sûr, il y a tout ce qu'on lui reproche. Mais j'appelle cela les dégâts collatéraux.
40 000 morts, c'est des dégâts collatéraux, mon général?
Je ne suis pas sûr que si on reprend même cette enquête aujourd'hui, qu'on déterre les gens, on compte un à un, on ne trouvera pas 10 000 morts. Je mets au défi ceux qui ont fait ce rapport. Je ne veux pas dire qu'ils sont des menteurs, mais à peu près ça. Oh, il est déjà mort, hein? On fait des hommages, on ne fait pas des hommages. Lui, il est là parti, il s'en fout. Mais hommage ou pas hommage, en tout cas, l'histoire est là. L'histoire est le seul juge objectif.
Voilà, l'histoire est le seul juge. Donc les mots très forts hein, de Guara Lassou, on va y revenir. Je suis sûr que ça va vous faire réagir. Je voudrais qu'on revienne aussi sur un hommage qu'on a eu, impressionnant, hommage historique de Gukuni Wedei. C'était l'ancien compagnon d'armes d'Hissène Habré. Les hommes se sont fâchés et je voudrais qu'on l'écoute tout de suite.
J'ai appris avec beaucoup de tristesse le décès subit de l'ancien président Hissène Habré. Hissène Habré fut mon compagnon de lutte pendant de longues années où nous avons partagé des moments difficiles. Et par la suite, nous sommes devenus des adversaires politiques. Néanmoins, il reste un homme d'État dans l'histoire tumultueuse de notre pays, le Tchad. Dans cette douloureuse circonstance, j'adresse mes phrases éternelle condoléance à la famille du disparu. J'adresse également mes condoléances au président de la République et au peuple tchadien.
Est-ce que vous vous souvenez du moment où vos chemins se sont séparés, de votre dernière entrevue peut-être ou dernière discussion?
Oui, la dernière rencontre que j'ai eue avec lui, c'était au camp 13. Autour de l'ambassadeur de France au Tchad pour une réconciliation entre lui et moi. Et depuis ce jour, on ne s'est jamais parlé. Et nous nous sommes plongés dans une guerre qui a duré 9 mois à peu près. C'est de la désolation, mais toutefois, c'est un événement passé, nous considérons.
Dans la mémoire du Tchad, d'après vous, que reste-t-il des années Hissène Habré?
Les gens, vous savez, interprètent chacun de sa manière. Mais toutefois, je ne veux pas me placer de ce côté ou de l'autre côté. Je me place au milieu pour dire ce que je pense. Hissène a laissé des traces indélébiles que tout un chacun interprétera de sa manière. C'est un cadre, un intellectuel. Donc, chacun interprétera de ses manières.
Voilà, Gukuni Wedei, l'ancien chef d'État qui avait été renversé par son ex-compagnon d'armes, Hissène Habré. Rid Brody, vous avez entendu très certainement ces témoignages, notamment juste avant du ministre des Affaires étrangères. Vous qui avez défendu toutes les victimes d'Habré, donc ces milliers de Tchadiens et de Tchadiennes, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous trouvez que c'est une insulte à la mémoire de ces victimes?
Je comprends évidemment le sentiment de parler bien des morts. Moi, j'étais avec le président Gukuni Wedei au Tchad. Il a salué le procès. Hissène Habré a commis quand même, il est condamné pour avoir commis des crimes très graves contre le peuple tchadien. Donc, on déplore les morts, mais on pense... Moi, je pense aux victimes. Je pense à ces milliers d'hommes et de femmes torturés, envoyés comme esclaves sexuels, des gens qui ont osé aller à Dakar. Je pense, par exemple, à Kaltouma Defala, une hôtesse d'air, qui avait été envoyée par Hissène Habré comme esclaves sexuels au Wadi Doum dans le nord pour servir pendant un an avec d'autres femmes et d'autres filles comme esclaves sexuels. Quand elle a témoigné au procès et elle a dit qu'elle se sentait forte, Issenabré, l'homme qui était tout puissant, et c'est maintenant elle qui parle et Issenabré qui doit l'écouter. Je pense que pour beaucoup de victimes, ce procès et les 20 ans qui ont amené au procès, c'était une bataille
d'ailleurs que vous avez gagnée et que les victimes ont gagnée. Je voudrais d'ailleurs qu'on s'arrête juste un instant sur cette bataille parce que ça a été historique ce procès Victor Mauriat du service Afrique de RFI puisque il a fallu je crois 15 ans d'une bataille juridique très complexe pour arriver à ce procès qui s'est tenu finalement en 2015 à Dakar.
Oui, c'est cela. Alors 15 ans, c'est la date entre le premier trace juridique d'une procédure contre Issenabré, mais les premières fosses communes de la DDS, on en parlait, la police politique, ont été découvertes au Tchad en 92, et c'est à ce moment-là que la commission d'enquête tchadienne a estimé à 40 000 le nombre de victimes de la dictature. Il y a eu ensuite, donc au Sénégal, une première inculpation en 2000, mais c'est en Belgique que les premières poursuites ont été lancées au nom de la compétence universelle. Là, on est en 2003. 2 ans plus tard, un mandat d'arrêt international est transmis aux autorités sénégalaises, où Issenabré s'est exilé, accueilli en 1990 par Abdou Diouf. Donc après ce mandat d'arrêt international, il passe quelques jours en garde à vue, il est relâché, la justice sénégalaise se déclare incompétente, s'ensuit encore un nouveau combat pour les associations de victimes auprès de l'Union africaine pour obtenir un procès. Et c'est en 2013 que la Cour internationale de justice ordonne au Sénégal de juger l'ancien président tchadien. Dakar se tourne vers l'Union africaine qui crée ce qu'on a appelé les chambres africaines extraordinaires, spécialement conçues pour le procès Abré. C'était la première fois qu'un chef d'État africain était jugé dans un autre pays du continent que le sien. Il a donc été condamné à la perpétuité en 2016, une peine confirmée en appel l'année suivante.
Merci Victor. Le temps file trop vite, malheureusement. En quelques mots, Oumar Kaman Bedaou, qu'est-ce qui va advenir de ces victimes? Car je crois qu'il n'y a eu à ce jour aucune compensation versée.
Si j'ai de la compassion, c'est à l'endroit des victimes.
Je parlais des compensations. Alors, on peut avoir de la compassion, mais je crois que les compensations qui avaient été jugées par la Cour, il n'y a pas eu de compensation financière pour les victimes.
De compassion. Si j'ai de la compassion, c'est à l'endroit des victimes, parce que depuis que le procès est fini, les victimes continuent de mourir. Et on a plus d'une centaine de morts en ce moment qui n'ont pas du tout été indemnisés. Et ils sont partis. Et j'ai accueilli la nouvelle de Issen Abré avec platitude, sans aucune originalité.
Et Ride Brody, est-ce que vous avez l'impression que ce procès restera comme une petite victoire ou est-ce qu'il peut y avoir encore une suite? Est-ce que la mort d'Issen Abré peut ouvrir encore une nouvelle page pour toutes les associations de victimes qui continuent à manifester d'ailleurs à N'Djamena?
Mais déjà, c'était une grande victoire qui prouvait que un poignet de victimes avec ténacité et persévérance pouvaient s'organiser pour traduire en justice leur dictateur en Afrique devant un tribunal africain. Donc, grande victoire. Le problème, c'est que 5 ans plus tard, les survivants n'ont pas reçu toujours le moindre centime. L'Union africaine qui avait œuvré pour ce procès n'a même pas mis en place le fonds au profit des victimes.
Donc il reste beaucoup, beaucoup à faire et il reste beaucoup à dire encore sur ces années à Abré. Merci beaucoup Ride Brody, ancien de Human Rights Watch, donc chasseur de dictateurs. Merci beaucoup Oumar Kaman Bedaou d'avoir été en ligne de N'Djamena. Merci aussi à tout le service Afrique de RFI. Et il est bientôt 20h à N'Djamena. Très belle soirée à l'écoute de RFI.